Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. David Elbaz, bonjour.
Bonjour, Solange Chouchana.
Vous êtes astrophysicien et vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob deux livres passionnants, Les 10 001 nuits de l'univers en 2022 et aussi À la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire, trou noir. Et là, je ne sais pas si c'est une réédition parce que j'ai vu qu'il y avait 2016-2022.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, celui-ci est sorti en poche. C'est un précédent, donc il était sorti avant. Et celui qui est sorti l'an dernier, ça s'appelle La plus belle ruse de la lumière, l'univers a-t-il un sens ?
Alors, ce livre, je ne l'ai pas eu, mais nous allons parler des deux précédents livres que j'ai mentionnés, Les 10 001 nuits de l'univers et À la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire, trou noir. Alors, David Elbaz, vous êtes astrophysicien et directeur scientifique du département d'astrophysique du commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous enseignez la formation des galaxies au master astronomie et astrophysique de l'Université Paris-Sud. Et vous êtes auteur aussi de documentaires et de spectacles. Vous avez publié des romans scientifiques ainsi que des essais dont À la recherche de l'univers invisible et puis La plus belle ruse de la lumière que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que nous pouvons revenir sur certains de ces éléments par exemple, quel est votre apport, ce que vous enseignez, quelle est votre spécialité brillante alors ?
Alors, ma spécialité, c'est l'étude de la naissance des sources de lumière dans l'univers, les étoiles, les galaxies, en essayant de remonter à l'origine de ces premières sources de lumière dans l'histoire de l'univers, en particulier avec le télescope qui vient d'être lancé, qui s'appelle le télescope spatial James Webb, ou un observatoire qui s'appelle ALMA. Et il y a tout un monde de formation d'étoiles, toute une jungle dans l'univers, un peu comme la nuit, la jungle dans la vraie jungle sur Terre. Dès lors que la nuit tombe, on voit toute une activité dans l'univers de naissance d'étoiles, de naissance de galaxies. Et c'est cette activité-là que j'étudie particulièrement.
Alors, ce qui est impressionnant, c'est que ce que nous voyons, ceci est ma propre réflexion, mon ressenti après la lecture de vos livres, parce qu'automatiquement, ça inspire et ça génère, non pas des étoiles dans ma tête, mais des réflexions. Ce ciel que nous voyons la nuit, c'est un ciel d'étoiles qui n'existe plus. C'est parce que la lumière a mis des milliards d'années, des millions d'années à nous arriver. Et tout ce que nous voyons, c'est la marque, la signature d'étoiles défuntes.
Alors, nous voyons effectivement toujours le passé. Le présent est totalement inaccessible à nos yeux parce qu'effectivement, comme vous le disiez, la lumière met du temps à nous arriver. Alors, quand on regarde la voûte céleste la nuit à l'œil nu, les étoiles qu'on voit sont encore vivantes parce qu'elles ne sont pas suffisamment loin. C'est-à-dire qu'elles ont mis, on les voit telles qu'elles étaient il y a quelques milliers d'années. Or, les étoiles vivent des millions ou des milliards d'années. Par contre, quand on prend nos télescopes et qu'on commence à regarder des étoiles dans des galaxies qui sont lointaines et dont la lumière a mis des milliards d'années, alors, effectivement, une bonne partie de ces étoiles n'existe plus aujourd'hui. On est en train de regarder l'univers, en fait, comme si on tournait les pages d'un livre et qu'on remontait l'histoire. Et c'est vraiment un livre d'histoire qu'on regarde.
Ah, j'aime bien cette idée de livre, de page que nous feuilletons. Nous voyons la première couche et puis derrière, c'est le télescope qui, lui, va explorer et voir des lumières qui, elles, proviennent d'étoiles défuntes. Et lorsqu'une étoile meurt, que se passe-t-il ? Carbonisée, que se passe-t-il ?
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu le principe du yin-yang qu'on trouve dans la pensée chinoise. C'est que, avant de s'éteindre, alors selon les étoiles, selon qu'elles soient plus massives que 10 fois la masse du Soleil, ou moins, ou autre, elles ont un destin qui n'est pas exactement les mêmes. Pour les plus massives, lorsqu'elles vont pour s'éteindre, elles s'effondrent sur elles-mêmes et elles explosent en brillant comme 1 milliard de soleils. Donc, une seule étoile, avant de s'éteindre, devient encore plus lumineuse, comme 1 milliard de soleils. Et quand elle va s'éteindre, elle va devenir un trou noir. Un trou noir qui, lui, est censé ne plus faire de lumière. C'est pour ça que je parlais du yin-yang, parce qu'en fait, c'est quand on pousse le yang à son extrême, il devient yin. Lorsque la lumière est poussée à son extrême, elle devient trou noir. Et puis, après, le trou noir lui-même va devenir une source de lumière. Dès lors qu'il va rencontrer de la matière qui va tomber à l'intérieur du trou noir, cette matière va chauffer et devenir une puissante source de lumière. Et donc le cycle reprend comme ça. Et tout dans l'univers est fait de ces paradoxes-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la lumière s'éteint, elle le fait en donnant naissance à quelque chose qui va être de l'obscurité, qui va redonner la lumière, et au moment où une étoile explose, elle fait une onde de choc qui se propage dans la matière interstellaire, et cette onde de choc engendre de nouvelles étoiles. Et donc, à chaque fois qu'il y a une mort dans l'univers, il en suit des naissances de mondes entiers, puisque ces étoiles naissent avec leur système planétaire. Le fer qu'il y a dans notre sang, qui fait la couleur rouge de notre sang, vient de la mort d'une étoile qui a donné naissance à la Terre et au système Soleil.
Est-ce que l'on peut dire que les éléments qui composent notre Terre, nos corps, se retrouvent dans l'espace interstellaire ?
Alors, exactement. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que non seulement les atomes de notre corps sont nés dans ces creusets chimiques que sont les étoiles, mais ce que l'on découvre de plus en plus, et ça c'est par exemple une des choses sur lesquelles je travaille, c'est que les molécules complexes, comme celles qui font les acides aminés dans notre corps, qui semblent être l'apanage du vivant, ont des signatures particulières dans la lumière. C'est-à-dire que la lumière que nous collectons en provenance des confins de l'univers a certaines couleurs qui nous indiquent que des molécules complexes sont en train de naître. Elles vibrent à une certaine fréquence, produisent cette lumière. Et nous sommes capables de voir que des molécules complexes sont nées dans l'espace interstellaire. On peut même penser que les molécules de notre ADN sont toutes d'une même symétrie. Et c'est peut-être dans l'espace interstellaire que cette symétrie s'est mise en place. Et donc, la recette qui va apporter la vie sur Terre, on ne sait pas à quel moment la vie va véritablement émerger, mais par contre, la recette, elle commence dans le cosmos.
Alors, nous vivons un véritable siècle d'or de l'astrophysique. En une vingtaine d'années, une succession de découvertes a révolutionné nos connaissances sur l'univers. Est-ce que vous pouvez citer pour nous, certains lecteurs néophytes, ces découvertes fondamentales ?
Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ce livre « Les 10 001 nuits de l'univers », parce que en espace de 10 001 nuits, depuis 1995, les découvertes se sont succédées à un rythme incroyable. Alors, en octobre 1995, Michel Mayor et Didier Queloz sont au télescope et font une découverte qui était normalement totalement inattendue, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ils voient passer une planète géante tout près de son étoile. Ils découvrent la première planète qui tourne autour d'une autre étoile. Pourquoi c'était impossible ? Parce que les planètes géantes, comme Jupiter, naissent très très loin de leur étoile parce qu'ils sont formés de petits corps glacés, de petits glaçons, et près de l'étoile, les glaçons s'évaporent. C'était totalement inattendu. Ils ont fait cette découverte, première exoplanète, depuis, en l'espace de ces 10 001 nuits, on connaît 5200 autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On estime qu'il y a environ 10 milliards de planètes analogues à la Terre, rien que dans notre galaxie, et 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. On a aussi vu l'ombre d'un trou noir galactique. Les trous noirs qui sont ces objets qui ne font aucune lumière, on en a vu l'ombre, on a vu le contour de ce trou noir. On a reçu des ondes gravitationnelles qui sont des déformations spatio-temporelles qui se sont propagées dans l'espace lors d'un accident de trou noir. Tout ça, ça a demandé des techniques complètement révolutionnaires, des défis qu'on pensait peut-être pas résoudre dans toute l'histoire de l'humanité, et ça s'est fait en très peu de temps. On a vu les germes qui sont à l'origine de la naissance des galaxies dans l'univers. On a vu naître une Terre tout près de son étoile qui ressemble à la Terre en direct dans le disque de poussière interstellaire qui accompagne l'étoile. on a vu naître des étoiles dans des cocons de poussière comme dans des chrysalides. Et j'en passe et des meilleurs, c'est incroyable le nombre de découvertes qu'on fait. Et en ce moment même, au moment où je vous parle, sont en train d'être faites de nouvelles découvertes avec le télescope James Webb, qui sont elles-mêmes véritablement troublantes. L'une d'elles, qui pour moi est la plus marquante, c'est le fait qu'on s'aperçoit que les galaxies dansent, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes en engendrant un mouvement, leur robe danse, et c'est ça qui est la clé de la naissance des étoiles et des systèmes solaires dans l'univers. Et ces galaxies dansent depuis la nuit des temps, depuis au minimum 600 millions d'années après le Big Bang. C'est là où on a remonté là très récemment, il y a quelques semaines. Et ça, on ne l'avait jamais vu avant. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un échantillon.
Ah, l'échantillon est exaltant et je comprends très bien l'esprit de poésie qui anime votre écriture, l'esprit de recherche du mot juste, le bonheur que vous avez à écrire la science, ça dépasse l'imaginaire et donc ça fait partie de la littérature, de quelque chose que l'on peut imaginer. D'ailleurs, l'imaginaire, vous avez dit, est une sorte de moteur qui pourrait tirer la recherche vers plus de performance encore.
Exactement. Parce que, vous savez, quand on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas, et quand on essaye de développer de nouvelles connaissances, de déployer le champ des connaissances dans des terres nouvelles, il faut imaginer un autre monde. Il faut créer un récit, il faut inscrire notre réflexion dans un récit qui va nous porter et qui va nous permettre, en nous guidant, d'aller voir ailleurs. Si on n'est pas capable d'imaginer cette autre chose et si on cherche de façon simplement purement logique dans toutes les directions, ça prendra des siècles. Toutes les grandes découvertes se sont faites par la capacité d'individus, des femmes, des hommes, qui ont été capables d'imaginer ce que pourrait être le monde, de créer un autre récit, de co-créer l'univers. Et c'est en devenant co-créateur de ce monde, en l'écrivant comme un récit, qu'il s'éclaire sous un angle nouveau, sous un jour nouveau, et il révèle des facettes qui étaient juste là restées invisibles.
Alors, le titre du livre dont nous allons parler un peu précisément, donc votre livre c'est Les 10 000 et une nuit de l'univers, qui paraît aux éditions Odile Jacob, et ça fait référence au titre du recueil de contes arabes Les 1000 et une nuit dont l'héroïne est la princesse Shehrazad. Et vous dites que le poète Edgar Allan Poe, américain, posé une question par rapport à ce conte. Quelle question a-t-il posé et est-elle pertinente?
Oui, c'est incroyable l'intuition géniale qu'a pu avoir Edgar Poe dans les années 40, en 1840. Voilà, en 1845, il a écrit le 1002e conte de Shehrazade, dans lequel il s'interroge pour savoir est-ce que si la princesse Shehrazade vivait aujourd'hui, quel serait le 1002e conte qu'elle raconterait au roi de Perse? Et là, il dit, eh bien, il y a quelque chose qui est encore plus extraordinaire que le fait de frotter une lampe magique et qu'un génie en sorte, ou de dire « Sésame, ouvre-toi » et qu'une grotte s'ouvre, ou de voler sur un tapis volant. C'est le fait que n'importe quel être ordinaire, qu'il soit un homme, une femme, un chien ou un chat, dès lors qu'il lève la tête vers le ciel, voit l'univers tel qu'il était il y a des millions et des millions d'années. Et ça, c'était sa façon à lui de dire que la réalité dépasse la fiction, à tel point que le roi de Perse, lorsqu'il entend ça, il dit « ça c'est trop ». Ça devient incroyable. Alors que lui, il avait accepté toutes les histoires complètement folles que lui avait racontées Shehrazade. Et là, il décide qu'elle ne passera pas la prochaine nuit, et elle trépassa dans l'histoire d'Edgar Poe. Trois ans plus tard, Edgar Poe se pose une autre question. Pourquoi fait-il nuit la nuit? Il se demande pourquoi y a-t-il des régions sombres entre les étoiles? Et il en déduit ceci. Il en déduit que c'est parce que la lumière n'a pas eu le temps de nous arriver des plus lointaines distances. Ce qui veut dire que Edgar Poe, en 1848, comprend que l'univers est une histoire, comprend que l'univers a eu un Big Bang, un début, un commencement, et il le comprend bien avant tous les scientifiques par sa capacité d'imagination de créer ce récit. C'est la démonstration par la logique pure du créateur, du poète, que c'est véritablement la capacité d'imagination de l'humain qui permet de lever les verrous lorsqu'on essaye d'avancer dans la connaissance.
Alors peut-être vous demander de revenir sur certaines notions, le Big Bang, l'espace-temps, des définitions pour que nous puissions avancer plus loin dans notre compréhension.
Bien sûr. Alors, le Big Bang reste quelque chose de profondément mystérieux. Ce qu'on sait, c'est que l'univers s'étend, les distances s'étendent, l'espace s'étire. Et si on remonte le film de l'univers en allant vers le passé, l'univers était plus concentré sur lui-même, jusqu'à ce qu'il soit une sorte de boule d'énergie totalement concentrée sur elle-même qui a entamé ce processus d'expansion. Ce moment initial, cette initiation de l'expansion de l'univers, on l'appelle le Big Bang, mais nous n'avons pas de véritable théorie du Big Bang. Et qu'est-ce qui s'étend ? Ce n'est rien d'autre que l'espace lui-même qui est doté d'une substance un peu comme une forme d'élastique, de caoutchouc, qui s'étirerait. C'est quelque chose de profondément troublant parce qu'on n'a pas du tout le sentiment que l'espace qui me sépare de l'arbre que je vois en face de moi dans mon jardin, que cet espace-là est doté d'une substance physique. Mais dès lors qu'on accepte cette idée-là, on s'aperçoit qu'on peut expliquer tout un tas de choses et que le temps est lié à cela. Alors la preuve, la voici. Si vous mettez une horloge atomique par terre et vous regardez le temps s'écouler et vous mettez une deuxième horloge atomique juste à côté, vous soulevez la deuxième horloge atomique de quelques centimètres au-dessus du sol et vous allez voir le temps s'accélérer. Ça veut dire que quand vous êtes quelques centimètres au-dessus de la Terre, vous êtes dans un autre espace-temps. Le temps s'écoule à une vitesse différente. Nos GPS utilisent des horloges qui sont dans des satellites qui prennent en compte le fait que le temps s'accélère quand on s'éloigne de la Terre. Et si on ne prenait pas en compte ceci, au bout de 24 heures, un GPS aurait une erreur d'environ 14 km. Et donc ces notions qui paraissent complètement dingues, inacceptables pour notre esprit habitué à nos expériences quotidiennes, eh bien, on vit avec, sans le savoir, tous les jours, avec nos GPS, l'espace et le temps sont déformables, les durées et les longueurs sont déformables, et l'histoire de l'univers depuis le Big Bang est l'histoire de cette déformation de l'espace et du temps qui n'a cessé d'avoir lieu.
Alors, vous posez deux questions de méthode. Vous travaillez comment en observant ? Est-ce que vous utilisez vraiment les mathématiques ou est-ce que votre travail, c'est de regarder grâce à ces appareils et de voir ce que votre perception d'humain qui a maîtrisé à votre niveau, votre perception est pratiquement surdouée. Est-ce que vous observez ou est-ce que vous travaillez beaucoup avec les mathématiques ?
Alors, c'est vrai que les mathématiques sont omniprésents. Néanmoins, il y a une catégorie de chercheurs qui essayent, par les mathématiques, de résoudre des problèmes qui sont fondamentalement mathématiques, comme par exemple d'essayer de trouver une théorie qui serait capable d'englober la théorie de la relativité d'Einstein, d'aller encore plus loin, ou d'expliquer la nature fondamentale des particules élémentaires. Ça, c'est une approche qui est purement théorique, très mathématique. Et puis, il y a les mathématiques qu'on utilise lorsqu'on essaye de décoder le langage de la lumière, lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'on observe de l'univers et comprendre ce récit de l'univers. Cette deuxième partie, c'est celle que, personnellement, je pratique, c'est-à-dire utiliser des théories de la mathématique qui est beaucoup plus rudimentaire que celle de ceux qui vont développer des modèles qui vont essayer d'aller au-delà de ce qu'a fait Einstein, et qui nous permettent de pousser nos connaissances à leurs limites et voir à quel point les théories résistent ou pas à ce qu'on observe. Et donc, aujourd'hui, quand on observe l'univers, il faut des jours, des semaines, parfois des mois de travail pour traduire ce que l'on capte de l'univers dans un langage qui puisse être utilisable, compréhensible, parce que les images qu'on reçoit de l'univers sont tellement compliquées qu'il faut les interpréter. Il faut qu'on essaye de mesurer quelle est l'histoire de cette étoile, de cette planète, de cette galaxie, à quelle distance elle se trouve, quelle est sa masse, etc. Et donc tout ça, ce sont des mois d'études par des collaborations internationales. Et ensuite, tout ça, c'est confronté à nos théories. Est-ce que les théories fonctionnent ou pas ? Aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Qui nous poussent à faire appel à des composantes de nature inconnue. Et c'est ça qui est le plus intéressant pour le scientifique, c'est l'utilisation de l'univers comme un laboratoire pour tester les lois que nous vivons sur Terre. On utilise l'ordinateur, l'univers comme un laboratoire pour voir des choses qui sont trop subtiles pour être vues sur Terre.
Grâce à ces télescopes, nous pouvons voir pas simplement l'histoire, l'univers, mais aussi notre histoire, celle de nos origines. Il y a la danse des galaxies qui engendre des vagues où naissent de nouveaux systèmes solaires. Il y a des rivières célestes invisibles, des univers îles qui voguent dans l'espace alimentés par des fleuves cosmiques. C'est pratiquement un tableau abstrait.
Oui, vous avez raison. C'est l'histoire de... Vous avez complètement raison. C'est-à-dire que l'histoire de l'univers nous intéresse non pas parce qu'on s'intéresse à cet objet qu'est l'univers, mais parce que c'est notre histoire. Et savoir que ce que l'on croit être des objets isolés dans l'espace sont en réalité interconnectés, un peu comme les neurones dans notre cerveau, que tout cela est en mouvement permanent, qu'il y a une sorte d'harmonie, de danse cosmique, et qui régule la naissance de nouveaux mondes, de nouveaux systèmes solaires, et que tout ça, quand on le regarde, quand on voit se passer, comme le disait Bierpo, eh bien ce qu'on voit, c'est notre histoire, c'est nos origines. Et ça nous permet de nous situer par rapport à cette histoire, et de resituer les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, dans le cadre de cette histoire globale. Quand on est confronté à des problèmes comme le réchauffement climatique, comme la chute de la biodiversité, des problèmes planétaires, etc., c'est des problèmes qui doivent se poser dans le cadre plus complet de notre histoire cosmique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est très important que tout le monde puisse s'approprier notre histoire cosmique.
Alors, pour continuer à rêver, alors que peut-on voir de l'univers à travers ces télescopes de dernière facture? Est-ce que nous pouvons voir les images de l'aube des temps, c'est-à-dire au moment de l'apparition de cet univers, je ne dis pas de la Terre, mais de l'univers, au moment de la naissance, le moment de sa venue au monde lui-même, cet univers? Peut-on aussi voir, anticiper le moment de sa disparition? Et s'il y a un début, doit-on dire, alors, peut-on dire qu'il y a nécessairement une fin?
Alors, ça c'est une question qui est très difficile. Parce que aujourd'hui, nos théories ne sont pas capables d'expliquer ce qui s'est passé il y a 13,8 milliards d'années au fameux moment du Big Bang. Et donc, on ne peut même pas parler véritablement d'un début, d'une origine. Par exemple, l'abbé Georges Lemaître, lorsqu'il a découvert cette idée de l'univers en expansion, il parlait, lui, d'un commencement, pour laisser un peu, peut-être, l'idée un peu plus floue. Et donc, l'idée d'un début ou d'une fin, pour l'instant, n'est pas véritablement une idée que la science peut s'approprier. C'est pratiquement une idée plus philosophique. Aujourd'hui, on n'a pas de théorie du début ou de la fin. On a juste une théorie qui décrit comment ça change au cours du temps. Selon certaines théories, l'univers a eu des phases précédentes, a eu des rebonds. Selon certaines théories, l'intérieur d'un trou noir ouvre sur d'autres dimensions, sur d'autres univers. On ne sait pas si l'univers ne peut pas avoir d'autres dimensions, s'il n'y a pas un multivers. Tout ça, ce sont des questions dont on ne sait même pas si nous serons un jour capables d'apporter une réponse. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant d'accepter ce que j'appellerais une forme de dogme d'ignorance, c'est-à-dire d'accepter le fait que l'avancée dans la connaissance permet de bien formuler, de mieux formuler, la limite de notre connaissance, de notre savoir, de reconnaître une forme d'ignorance et d'une forme d'ignorance savante. C'est ça qui est la différence la plus fondamentale entre un scientifique et un complotiste. Le complotiste est dans la certitude, et la certitude pour nous, c'est le contraire de la connaissance. Tandis que l'ignorance fait partie de la connaissance. Et là, la question du Big Bang, du début, de la fin, rentre complètement dans le domaine de cette ignorance savante aujourd'hui.
Alors, pour la question de la gravité qui est très importante, est-ce qu'il y a une dimension dans l'univers où cette gravité n'opère plus? Et alors là, qu'est-ce qui maintient en place les choses, ce système, ce bal, cette chorégraphie cosmique?
Alors, c'est effectivement une question intéressante. Par exemple, lorsque Emmanuel Kant, le philosophe, lui aussi a eu une intuition géniale pour comprendre la naissance du système solaire, il s'est dit, la matière s'est mise à tourbillonner, elle a donné naissance aux planètes et au soleil, et maintenant, il n'y a plus de matière dans l'espace entre les étoiles. Sinon, elle subirait la gravité, elle tomberait. Or, aujourd'hui, nos observations permettent de voir qu'il y a de la matière en suspension, comme si elle était insensible à la gravité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la matière en suspension dans l'espace qui semble insensible à la gravité? Eh bien, c'est justement la danse des galaxies. De par leur mouvement, de par leur danse, les galaxies sont un peu comme une danseuse qui danse sur la pointe des pieds, d'un poids d'un pied, et qui, en tournant sur elle-même, reste en équilibre. Dès lors que le mouvement s'arrête, elle tombe. Eh bien, tout autour de nous, la matière est comme une danseuse, la galaxie est comme une danseuse dont la robe s'élève, et c'est le disque de la galaxie, avec des vagues qui se propagent dans ce disque, dont l'écume est faite de régions où naissent de nouveaux mondes. Nous, le système solaire, est né dans l'écume des vagues d'une galaxie dansante, dans cette robe dansante, et tout ce mouvement-là, en permanence, est nourri par des mouvements à encore plus grande échelle de matière qui coule dans la galaxie, et donc il faut voir tout ça comme dynamique, et c'est la dynamique du mouvement global qui permet à la matière de résister à la gravité.
Alors une dernière question, David Elbaz. Vous demandez quels sont vos apports, qu'est-ce que vous avez apporté, mais sans humilité, sincèrement, qu'est-ce que vous avez ajouté par vos recherches, puisque vous avez une position tout à fait privilégiée en tant qu'astrophysicien?
Alors, dans ce domaine de l'étude de la naissance des galaxies, des étoiles, on a fait une découverte il y a quelques années. On a découvert que les étoiles naissaient avec un rythme universel dans les galaxies. C'est ce qu'on appelle maintenant, on appelle ceci la séquence principale des galaxies. Peu importe, c'est un article qu'on a publié qui montrait qu'il y avait une formation d'étoiles universelles. Et la question, c'était de savoir, mais comment c'est possible? Et cette formation d'étoiles universelles, c'est justement l'expression du fait que, par leur mouvement de danse, les galaxies maintiennent ce rythme universel. Et pour arriver à cette découverte-là que nous avons faite, et qui depuis a complètement changé le domaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conférences qui aujourd'hui sont centrées sur l'étude de cette séquence principale des galaxies, de cette universalité-là. Pour arriver à découvrir ça, on a dû plonger dans l'invisible, on a dû étudier l'univers dans l'infrarouge, ça c'est le domaine dans lequel je travaille personnellement, c'est de regarder dans l'invisible, dans l'infrarouge, les étoiles naissantes, les galaxies naissantes, qui sont cachées dans la poussière d'étoiles, voire à travers les chrysalides, les papillons qui se transforment. Et ça, c'est ça qui nous a permis de vivre, de mesurer la vitalité des galaxies et de voir l'écume des vagues des galaxies, de voir les galaxies naissantes, de découvrir des galaxies qui avaient été totalement invisibles et complètement, qui étaient passées inaperçues par tout le monde et qui nous a permis de découvrir cette universalité. Ça, c'est les travaux que nous avons faits au cours des dernières années.
Alors, je ne peux pas résister à l'envie de vous poser une question. Docteur, quelle est la vitalité de l'univers? Est-ce qu'il y a des choses inquiétantes ou est-ce que c'est encore en pleine reproduction, vie? Est-ce qu'il y a de l'espoir?
Alors, c'est une très bonne question parce que aujourd'hui, on estime qu'il naît à peu près 10 000 étoiles par seconde dans la partie observable de l'univers. Alors, c'est beaucoup, 10 000 étoiles par seconde, ça veut dire qu'entre le début et la fin de cette phrase, il est né 40 000 étoiles. Mais avec tout accompagné de planètes, etc. Mais il y a 10 milliards d'années, l'univers formait 10 fois plus d'étoiles. Donc, sa vitalité était 10 fois plus grande il y a 10 milliards d'années qu'aujourd'hui. Et la question est de savoir qu'est-ce qui fait que l'univers vieillit? Qu'est-ce qui fait qu'il devient moins fécond, moins fertile? Comment se fait-il qu'il donne moins efficacement naissance à de nouveaux mondes, à de nouvelles étoiles? Est-ce que c'est à cause des trous noirs? Est-ce que c'est à cause de son expansion qui fait que tout se dilate? C'est un des sujets qu'on étudie, qu'on essaie de comprendre. Et ce qui guide l'univers vers son futur se trouve être une forme d'énergie de nature totalement inconnue. On l'appelle énergie noire. C'est elle qui dilate l'univers aujourd'hui. Et tant qu'on ne connaîtra pas la nature de cette énergie qui pousse l'univers à s'étendre toujours de plus en plus vite, on ne saura pas dire quel sera l'avenir de l'univers avec nos études. Et donc un satellite va être lancé en juillet 2023 pour étudier la nature de cette forme d'énergie. Et aujourd'hui, c'est l'un des grands mystères. Parce que cette énergie, qui est en cours d'action aujourd'hui, ressemble à s'y méprendre à celle qui est à l'origine du Big Bang, sur lequel vous m'interrogiez tout à l'heure. C'est comme si la boucle était bouclée et qu'on avait devant les yeux ce qui est à l'origine, entre guillemets, de la création du monde. Et donc, on est confronté, en étudiant la fin, à la même question que celle qui est de comprendre le début. Et que peut-être que l'acteur qui est à l'origine du début et de la fin est le même. Et peut-être donc qu'il n'y a pas de début et de fin. Tout est dans l'énigme de ça. Et ça, c'est aujourd'hui la grande énigme à laquelle on est confronté aujourd'hui.
David Elbaz, je vous remercie infiniment de nous avoir présenté avec tant de talent ces deux livres remarquables, Les 10 000 et une nuit de l'univers, qui paraît aux éditions d'Il Jacob, et À la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire, trou noir. Et ce fut un grand moment de science humaine, parce que vous traitez votre savoir avec sensibilité et brio, tout simplement. Merci infiniment.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci, et peut-être à une autre fois, avec plaisir.
Avec plaisir.
Merci.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.